France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Il aime le théâtre, le cinéma, il aime la peinture. La question « Aimez-vous la chanson ?» ne lui est pas posée. Nous sommes au tout début des années 50 et Serge Reggiani ne songe certainement pas alors à la chanson. Ce sera pour la décennie suivante. En 1950, Serge Reggiani n'a pas encore interprété Mandat dans Casque d'or. Il a été Rouletabille l'année précédente au cinéma. On l'a vu dans Les Portes de la Nuit, dans Manon, dans Les Amants de Vérone. Au théâtre, dans Britannicus, dans Les Parents Terribles, dans Les Justes. Bref, encore une fois, nous sommes en 1950, le 29 juin 1950, sur la chaîne nationale. Il est question de théâtre, de Van Gogh, d'une frontière passée à 8 ans, de l'âge essentiel de la vie, entre 15 et 25 ans, ou entre 25 et 35 ans, lui, à 28 ans. Il est aussi question d'une allumette rangée dans sa boîte.
Veuillez écouter « Qui êtes-vous ?», une émission d'André Gillois avec Emmanuel Berle, Maurice Clavel et Jean-Pierre Morfait. Aujourd'hui, « Qui êtes-vous ? » Serge Reggiani. Émission réalisée avec la collaboration d'Alain Aliou, Maurice Béard et Gaston Morfait. Montage Jacques Guinchard, avec le concours des techniciens du centre d'enregistrement.
Il est inutile, je pense, que je demande à Serge Reggiani de me dire qui il est, puisque chacun sait qu'il est comédien. Et pour le reste, nous nous expliquerons sur les réponses qu'il va faire aux questions suivantes. Quelle est votre occupation préférée en dehors de votre profession ?
Eh bien, d'une manière générale, j'habite la campagne et d'une manière générale, je travaille dans mon jardin. Je m'occupe des fleurs, des poulets, des lapins, des poussins, de mes chiens, de mon fils naturellement. Je joue avec lui et c'est à peu près tout ce que je fais. Enfin, le bricolage en général.
Nous apprenons en même temps que Reggiani est marié et a un fils. Comment travaillez-vous ? À quelles heures ? Dans quel cadre ?
Bien, je n'ai pas d'heure particulière pour travailler. De préférence, enfin disons pour mes rôles, je travaille en m'occupant manuellement à autre chose. Pour moi, c'est la meilleure manière de travailler. Pour travailler un rôle, par exemple, en me promenant dans les rues de Paris, c'est pour moi, je crois, la meilleure façon de travailler.
Aimez-vous les animaux ?
Oui, naturellement.
Lesquels ?
J'ai une préférence pour les chiens parce que j'en ai. J'aimerais probablement aussi les chevaux, si j'en avais. Enfin, je suis aussi très attiré par les chevaux.
Êtes-vous attaché à des objets ?
Je n'ai pas cette impression. Je ne crois pas. Je suis très attaché à la maison que j'habite, si toutefois on peut considérer cette maison comme un objet.
Non, mais enfin, vous n'avez pas d'objet...
Auquel je tiens particulièrement.
Fétiche, en quelque
non,
sorte.
Non, pas du tout.
Préférez-vous la compagnie des hommes ou celle des femmes ?
Il y a quelques femmes... amis que j'aime énormément, mais d'une manière générale, je préfère la compagnie des hommes.
Préférez-vous faire des confidences ou en recevoir ?
Ni l'un ni l'autre, en fait.
Vous n'aimez pas les confidences. Pouvez-vous fréquenter des gens que vous n'aimez pas ?
Oui.
Vous pouvez.
Et comment ça se passe ?
Mal.
Eh bien, non, pas spécialement mal. Enfin, des gens que je n'aime pas, non pas des gens que je déteste. Les gens que je déteste, si toutefois il en est, parce que je ne vois pas précisément de gens que je déteste, je ne crois pas même qu'il y en ait. Enfin, quand je rencontre quelqu'un que je n'aime pas spécialement, qui ne m'est pas spécialement si pas sympathique, j'essaie d'avoir une attitude à peu près correcte, normale, polie en plus. Enfin.
Y a-t-il pour vous plus de plaisir à plaire ou à convaincre ou à provoquer ?
J'aime, évidemment, plaire... aux gens qui me plaisent. Je ne comprends pas très bien convaincre et provoquer.
Convaincre, c'est-à-dire persuader les autres d'opinions auxquelles vous pouvez tenir particulièrement ou...
Oui, naturellement. Si toutefois les gens que j'essaie de convaincre sont des gens que j'aime.
Aimez-vous être estimé, admiré, aimé, être indifférent ou même antipathique ou méprisé?
Alors, dans l'ordre estimé, c'est un sentiment que je ne sais pas recevoir. Enfin, c'est toutefois, il y a des gens qui m'estiment. Enfin, je ne m'en aperçois pas, je ne sais pas. Enfin, être admiré. Oui, bien sûr.
C'est le métier.
Disons que c'est le métier, oui. Aimer, comme tout à l'heure, j'ai dit, des gens que j'aime. Être indifférent, il m'est indifférent d'être indifférent aux gens qui me sont indifférents. Et... je crois qu'il ne m'est pas non plus particulièrement désagréable d'être antipathique aux gens qui me sont antipathiques. Enfin, tout ça va avec être aimé des gens qu'on aime.
Quel est le livre qui vous a le plus impressionné?
J'ai très peu lu, mais pour l'instant, le plus beau livre que j'ai lu, c'est sont les lettres de Van Gogh, son frère.
C'est admirable.
Quels sont les personnages imaginaires que vous préférez?
Ah oui, les redresseurs de tort.
Vous arrive-t-il de détester des personnages imaginaires et les auteurs qui les ont inventés?
Non. Non.
Aimez-vous le théâtre?
Le cinéma aussi, oui, j'aime le théâtre, j'aime le cinéma, j'aime jouer au théâtre, j'aime jouer, etc.
Préférez-vous la peinture, la sculpture ou un autre art?
Je crois que je préfère la peinture parce que peut-être est-ce que je connais peut-être la peinture mieux que les autres choses, ou plutôt moins mal, s'il vous plaît.
Y a-t-il des œuvres qui vous soient particulièrement chères?
Non, je ne trouve pas.
Il n'y a pas un peintre ou
une toile d'un peintre? Si, un peintre, oui, d'ailleurs, des peintres, oui. Disons, Van Gogh... J'étais à Venise dernièrement, j'ai vu très rapidement, malheureusement, quelques toiles de Carpaccio qui m'ont ébloui. J'aime les choses de Renoir, j'aime énormément Picasso.
Et quels sont vos goûts en musique? Genre, auteur?
Je crois que je mets Bach par-dessus les autres.
Lisez-vous les journaux?
On ne peut pas dire que je ne lis pas les journaux, je ne peux pas dire non plus que je les lis. En tout cas, je n'ai pas pour l'habitude de les acheter chaque soir. Enfin.
Il n'y a pas une rubrique non, qui ait votre attention particulière. Vous lisez les titres en
pas spécialement.
Et la critique dramatique?
Pas tellement non plus.
Pas tellement.
L'histoire vous intéresse-t-elle?
Oui, bien sûr, l'histoire m'intéresse.
Quelle époque particulièrement?
Je ne sais pas, parce que je ne connais pas l'histoire. J'aime l'histoire par elle-même, parce que j'imagine. Je ne connais strictement rien à l'histoire.
Mais il n'y a pas les personnages que vous connaissiez?
Non.
Pensez-vous beaucoup à votre propre passé?
Pas particulièrement. Pas beaucoup, en tout cas.
Quel est l'âge de la vie qui vous semble essentiel?
Oui, peut-être entre 15 et 25 ans pour la préparation, et ensuite aussi entre 25 et 30 ans pour la cristallisation de la préparation en question.
Quelle a été votre première émotion? Enfin, quelle est l'émotion la plus lointaine dont vous vous souveniez?
Eh bien... ma première, et je crois même peut-être la plus grande, non, je ne sais pas parce qu'elle est première ou quoi, mais parce que lorsque j'ai passé pour la première fois, j'avais 8 ans, une frontière. Je prenais le train pour la première fois, c'était la nuit, j'ai passé une frontière, j'ai pris conscience des frontières et d'une autre langue que l'on pouvait parler dans un autre pays, une autre langue que celle qu'on avait parlé habituellement.
Vous aviez 8 ans?
J'avais 8 ans.
Oui. Et vous ne vous rappelez pas d'émotions antérieures à ça, parce que c'est déjà âgé, 8 ans?
D'émotion.
Oui, enfin, d'émotion, vous savez, non. Quelque chose...
D'émotion, non.
Mais vous avez un souvenir en termes
d'émotion absolue, non.
Et simplement, quel est votre plus ancien souvenir?
Lorsque je jouais avec un tricycle dans les rues de la ville natale, et je me souviens de ça parce que j'avais un grand pansement autour du bras, je m'étais brûlé le bras. Parce que j'avais 3 ans à peu près.
Et vous vous souvenez de la promenade en tricycle et vous ne vous rappelez pas la brûlure?
Si, je me souviens de la brûlure.
L'accident de la brûlure.
Très bien de la brûlure. Oui. Je me souviens très bien de la brûlure. Oui, donc c'est déjà plus loin. Mais enfin, tout ça est mélangé. Enfin,
ça a dû être une émotion tout de même que cette brûlure, j'imagine.
Mais je ne m'en souviens pas en tant qu'émotion.
Vous ne vous en souvenez pas en tant qu'émotion.
Je m'en souviens en tant que souvenir et non pas en tant qu'émotion.
Rêvez-vous beaucoup?
Non.
Si l'on vous accordait 3 actes de puissance absolue, que feriez-vous?
Eh bien, j'essaierai, puisque je serai tout puissant, je trouverai bien un moyen de supprimer toute possibilité de guerre. Et cet acte me suffirait amplement.
Quel est pour vous le comble de la misère?
Peut-être se trouver dans le monde actuel, dans un endroit, dans un milieu, dans une classe sociale qui est misérable, de par sa pauvreté, enfin, qui est misérable véritablement, et ne pouvoir rien y faire.
La sensation d'impuissance devant la misère des autres.
Devant la misère des autres, devant la sienne et devant celle des autres, naturellement.
Et lié à l'idée de l'injustice.
Lié à l'idée de l'injustice.
Croyez-vous au signe?
Non.
Êtes-vous angoissé?
Oui.
Pour quelle faute avez-vous le plus d'indulgence?
Mon Dieu, pour les fautes de passion, quelle qu'elle soit, d'amour pour une femme, pour le peuple, enfin.
Faute passionnelle. Quelles sont les vertus ou les qualités que vous appréciez le plus?
Il est classique de dire que l'économie est une vertu, mais elle a son contrepoids
dans l'avarice.
C'est une vertu que je n'apprécie pas spécialement.
Mais est-ce que vous l'êtes, économe?
Je crois, peut-être, oui.
Moi, j'en suis sûr. Et savez-vous pourquoi?
Non.
Tout à l'heure, avant l'émission, vous aviez une allumette,
oui.
Une boîte d'allumettes.
Oui.
Je vous ai offert du feu, je vous ai quelque peu devancé. Oui. Vous avez rangé votre allumette à côté des autres.
Oui, c'est peut-être, alors là, c'est la psychanalyse poussée extrêmement loin.
Ah, c'est un réflexe, c'est un geste instinctif.
C'est un réflexe, je doute que ce soit par économie.
Bien évidemment.
Parce qu'alors j'aurais pu également répondre le contraire, non, je ne suis pas économe.
Et en quel sens?
Disons que je ne tiens pas mes comptes et que je ne sais jamais ce que je...
Ce qui semble tout de même, c'est que vos réserves sur l'économie ne tiennent pas du tout à ce que vous ne soyez pas économe.
Non, en aucun cas.
Non, mais je vous ai demandé quelles étaient les vertus ou les qualités que vous appréciez le plus,
oui.
Et vous m'avez répondu en me disant que vous n'appréciez pas énormément l'économie. Alors, est-ce qu'il y en a que vous appréciez?
La générosité est une qualité que j'apprécie particulièrement.
La générosité?
La générosité absolue, pas seulement la générosité qui a un rapport avec l'économie. Non, la générosité absolue.
Au sens noble. Quelle est l'action que vous avez le plus admirée?
Je ne sais pas.
Quelle est celle de vos actions qui vous a laissé la plus mauvaise conscience?
Mais je ne sais pas non plus. Il y en a certainement quelques petites, mais je n'arrive pas à me...
Ça ne vous hante pas?
Non.
Êtes-vous joueur?
Non.
Le risque vous attire-t-il?
Pas spécialement, non.
Aimez-vous les spectacles dangereux?
Oui.
Aimez-vous la foule?
Oui.
Pourriez-vous vivre ailleurs qu'en France?
Oui, si on m'y obligeait. Absolument, si on m'y obligeait vraiment.
Et où?
Je suis allé il y a quelque temps en Italie, j'adore l'Italie, je suis allé quelque temps à Londres, j'aime énormément Londres.
Avez-vous conscience d'avoir beaucoup changé?
Non.
Avez-vous l'impression de jouer la comédie et de ne pas parvenir à être vous-même?
Oui.
Non, j'entends de jouer la comédie lorsque vous ne faites pas votre...
Naturellement.
Même seul.
Et c'est une impression extrêmement désagréable. Enfin, je crois que c'est un complexe assez normal pour un comédien.
Pensez-vous souvent à la mort?
À la mort des autres?
Non,
à
la vôtre.
À ma mort?
Oui.
Non.
Quand avez-vous vu pour la première fois un cadavre et quelle a été votre réaction?
Je n'ai jamais vu de cadavre.
Avez-vous quelquefois pensé au suicide?
Pour moi?
Oui.
Non.
Avez-vous eu envie de tuer quelqu'un?
Non.
Si vous saviez devoir mourir dans un quart d'heure, auriez-vous un vœu à exprimer, une phrase à prononcer, enfin quelque chose à dire?
Mais j'ai un fils qui a 4 ans, c'est facile.
Bon, alors avez-vous d'autres questions? Je m'adresse à mes voisins. D'autres questions à poser à Serge Reggiani ou des commentaires déjà à faire sur ce qu'il a dit?
Oh, je voudrais simplement, moi, demander à M. Reggiani, étant donné qu'il avait commencé à nous raconter son histoire, comment il s'était brûlé le bras, je pensais qu'il pourrait nous la raconter jusqu'au bout, s'il se rappelle comment il l'a brûlé.
Oui, je m'en souviens. J'étais dans la cuisine. Ma mère était à côté de moi. Elle m'essayait un petit béret. Et à côté de moi, de l'autre côté, à ma droite, il y avait un fourneau et de l'eau qui bouillait. Et en essayant le béret, j'ai donné un coup de coude au récipient et le récipient est tombé sur moi plein d'eau bouillante. Simplement.
Voilà un récit bien circonstancié, vous êtes content?
Oh ben, enfin, j'aimais mieux savoir jusqu'au bout, puisqu'il se rappelait.
Bon. Maurice Clavel?
Eh bien, c'est la première fois depuis le début de notre émission que nous avons un interlocuteur qui aime les spectacles dangereux. Cela valait la peine d'être noté.
Oui, c'est vrai.
Et est-ce qu'on peut approfondir pourquoi vous aimez les spectacles dangereux? Quelle sorte de plaisir vous y trouvez?
Écoutez, lorsque vous me parlez de spectacles dangereux, j'imagine évidemment le cirque.
Oui,
c'est ça.
N'est-ce pas? Dans tout ce qu'il a de merveilleux et aussi de dangereux à la fois. Peut-être, ça vient peut-être du fait que moi-même j'ai essayé, et j'admire beaucoup le travail physique et le travail, disons, le travail de voltige et tout ça.
Alors ce n'est pas tellement le danger qui vous attire dans...
Ah non, ce n'est pas le danger lui-même.
Ce n'est pas le sentiment qu'il peut mourir.
Je crois simplement parce que j'apprécie particulièrement ces gens de spectacle.
Est-ce que vous
je les apprécie particulièrement parce que je les connais vraiment bien.
Est-ce que vous trouvez ça
plus émouvant? Pour avoir essayé moi-même de le faire.
Quand il n'y a pas de filet, par exemple.
Non. Non, je trouve ça plus désagréable. Je trouve ça désagréable quand il n'y a pas de filet.
Ah oui, mais par conséquent, la réponse de Reggiani était équivoque, parce que ce n'est pas le danger qu'il aime dans les spectacles dangereux, mais plutôt le fini, la perfection physique. Je dirais presque le...
Oui, et puis de toute façon, qu'il y ait un filet ou non, il y a de toute façon un danger. Et puis enfin, le filet, de toute façon, on l'oublie. Alors.
Ce qui est très curieux dans Reggiani, je ne veux pas revenir au... De parvenir à cette dualité sur l'économie et la générosité, je n'y reviendrai pas si elle ne se trouvait à peu près partout. À peu près partout, il y a un... Je crois qu'il y a évidemment un altruisme foncier, et avec, c'est pourtant une sorte de balancement entre égoïsme et altruisme, comme si l'égoïsme revenait presque comme point d'interrogation et comme hypothèse avant qu'une décision plus altruiste ne tranche. Je prends un symptôme, je dirais presque un symbole, parce que ça n'a pas une valeur de preuve dans vos réponses. Pensez-vous à ceci pour moi, et puis vous donnez cette réponse. Pensez-vous à cela pour moi, donc vous n'êtes pas un pour moi, mais vous êtes un pour moi avec point d'interrogation. Et alors, est-ce que vous avez tôt, est-ce que, d'autre part, ce qui est très intéressant aussi, c'était lorsque vous parliez du comble de la misère, et que vous n'arriviez pas, jusque dans votre élocution, à dissocier votre misère ou celle d'une classe, d'une communauté à laquelle vous appartenez, de telle sorte qu'il nous a été un moment assez difficile de savoir, et peut-être vous-même, si c'était vous ou vous tous qui envisagiez d'en sortir. Alors je voulais vous demander si vous avez été quelquefois dans votre vie partagé, ou entre ce qu'on appelle dans ce qu'on appelle un conflit, n'est-ce pas, entre un égoïsme et un altruisme.
Non, excusez-moi, mais quel est pour vous le comble de la misère? Ce n'est pas le comble de la misère pour moi-même, mais la comble de la misère en général.
À vos yeux,
à mes yeux.
C'est cela, oui. C'est cela. Non, mais ce qui est intéressant, ce n'est pas que vous ayez répondu précisément à la question exacte que nous posions. Est-ce que vous n'avez pas eu précisément dans votre vie des situations, comme on dit au théâtre, des situations de déchirement, de partage entre un égoïsme et un altruisme? Parlons par exemple de ce que j'appellerais votre ascension sociale et d'un côté, n'est-ce pas, l'ensemble de cette classe dont vous parliez précisément et que les lois économiques contraignent à ne pas s'élever. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire?
Oui, mais certainement, puisque en fait c'est tout le problème. Et même pour la question êtes-vous angoissé, je réponds oui. C'est même l'angoisse.
L'angoisse principale.
Oui, absolument. Je crois qu'il est difficile, de toute façon, nous sommes tous un peu là, c'est difficile de faire autrement.
C'est ça, et vous...
À l'époque à laquelle nous vivons.
Et si vous m'arrêterez si je suis indiscret, vous êtes donc peut-être d'autant plus angoissé que vous connaissez par expérience cette misère qui continue à vous obséder, même alors que vous ne la subissez pas directement.
Oui, c'est ça, oui. Bien que je ne la subisse pas directement.
Voyons, moi, j'avais l'impression, d'après les réponses de M. Reggiani, que c'était essentiellement une nature tendre. N'est-ce pas? Presque tout ce qu'il a dit allait dans ce sens. Il aime les fleurs, il aime les gens qu'il aime, les gens qui ne l'aiment pas lui sont indifférents. Il aime autant être pas aimé, ni d'ailleurs estimé des gens qui n'aiment pas. Enfin, tout ça me paraît extrêmement cohérent. Et d'un autre côté... dans son physique, on dirait tout de même qu'il y a quelque chose d'assez combatif et martien. Alors, je me demandais comment s'arrange cette disposition à la tendresse avec le reste de la nature. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes colère?
Oui.
Est-ce que vous êtes impatient?
De moins en moins.
Mais je crois que je crois que lorsque vous dites est-ce que vous êtes colère, si vous cherchez à mettre Reggiani en contradiction ou à faire apparaître deux aspects de sa nature, vous ne faites jamais apparaître que le même, car la colère n'est pas opposée le moins du monde à la tendresse, ce serait plutôt la rage froide, la rancune qui serait.
C'est-à-dire qu'aussi en ce sens que la colère trouble les rapports de tendresse, n'est-ce pas? Vous êtes très bien à la campagne, vous êtes dans une situation idyllique, là-dessus, vous vous mettez dans une rogne épouvantable. Évidemment, le côté bleu est tout de suite transformé, n'est-ce pas? Alors, je me demandais s'il n'y avait pas, chez M. Reggiani, des tensions de cet ordre.
Il y en a certainement, mais je ne suis pas d'accord lorsque vous me dites qu'elle trouble cette atmosphère de tendresse. En aucun cas, puisque vous dites que je suis un tendre, moi je veux bien le croire. Mais en aucun cas, je crois que des gens tendres ne peuvent en aucun cas être coléreux. Au contraire, pourquoi pas? Ça va au contraire très bien ensemble.
J'ai le sentiment que ce n'est pas d'ailleurs tellement autour d'une question de tendresse que peut tourner le débat. Mais il me semble qu'il résulte de vos réponses une chose très précise, comme le disait Clavel tout à l'heure, c'est que les autres existent et qu'il n'y a même pas tellement, je crois, de balancement entre l'altruisme et l'égoïsme. Il peut y avoir au maximum, dans vos réponses, un grand désir de bonne foi à saisir la question, parce qu'il ne vous apparaît pas que l'on puisse vous interroger strictement sur vous-même. Alors, vous demandez tout à coup, mais au fond, est-ce à moi-même seulement que vous appliquez la question? Parce que, auparavant, dès que la question a été formulée, vous avez déjà pensé qu'elle s'appliquait en général. Si je voulais employer un des mots de l'époque, je dirais que, beaucoup plus qu'altruiste, vous vous sentez engagé. Alors, je voudrais vous demander, quels sont, si je puis dire, vos rapports avec l'état de solitude? Supportez-vous la solitude?
Oui.
Je voulais remarquer du reste que pour beaucoup de questions, vous allez d'abord aux autres. Enfin, vous établissez toujours une espèce de balancement entre autrui et vous-même. Alors, ce que je voulais vous demander, ce qui se rapproche un petit peu de la question de Jean-Pierre Morphée, c'est, lorsque vous êtes seul avec vous-même, est-ce que vous n'avez pas des sentiments pour autrui qui sont indépendants de ce que peut penser l'autre personne?
J'ai cette impression.
Ce que nous avons considéré tout à l'heure comme une sorte de mouvement d'échange constant, de balancement entre vous-même et les autres, tout de même fournissent une réponse assez contradictoire pour les confidents, c'est-à-dire vous n'aimez ni en faire, ni en recevoir. Comment se fait le contact?
Et tout dépend à qui, naturellement. Les confidences en soi, déjà en soi, confidence est assez péjoratif. mais je pense que je ne tiens pas spécialement à recevoir des confidences, même de mes amis. D'ailleurs, mes amis ne m'en feraient pas. Je ne comprends la confidence que si vraiment un personnage, moi, disons, je suis très embêté pour une question que je n'arrive pas à résoudre moi-même, une question importante et même une question grave, si j'ai la chance d'avoir un ami qui soit un ami, je lui fais la confidence.
Ah, mais ça, vous lui demandez un conseil.
Oui, parce qu'il me conseille, mais la confidence par elle-même, je n'en vois ni l'utilité, ni l'agrément.
C'est un peu tout de même de cet ensemble de
confidences. En tout cas, je n'en vois pas l'agrément.
Que peut venir la connaissance.
On peut arriver à connaître des gens sans que des confidences absolues soient faites. Ce n'est pas une confidence que vous dire que j'aime Van Gogh et pourquoi j'aime Van Gogh. Ça n'a aucun rapport. Je peux déjà vous aimer un peu, un tout petit peu, si vous me dites que vous aussi, vous aimez Van Gogh pour les mêmes raisons que moi.
Ça me semble très juste ce que dit Virginie, c'est-à-dire que je crois qu'il aime trop la confidence pour qu'elle soit galvaudée en pure perte et pour le plaisir d'en faire. Seulement, ce que je constate, de même que nous avons constaté ce balancement entre moi et les autres chez Virginie, je crois qu'on ne peut pas complètement, comme Emmanuel Baird, parler de tendresse, car il se dégage des réponses de Virginie, et je n'ai pas de preuve, mais c'est plutôt un ton. Il y a en même temps une grande tendresse et une certaine dureté, je trouve. Une dureté qui n'est pas du tout la dureté du personnage, qui serait peut-être la dureté ou du monde, ou de l'époque, ou de la jeunesse, je ne sais pas, n'est-ce pas, j'en suis réduit à formuler des hypothèses, mais qui doit le rendre certainement, sur certaines questions, ne serait-ce que sur des questions défensives assez brutales, c'est-à-dire, disons, une tendresse sans mollesse. Il est certain que Reggiani est un tendre, mais la plupart des tendres que nous connaissons n'ont pas le ton.
Non, mais c'est-à-dire, Reggiani nous parle surtout des redresseurs de tort. Il nous en a parlé à deux reprises, et il y a chez lui une ardeur, malgré une grande réserve, qui est plus apparente que la tendresse dont a parlé Emmanuel Baird, et qui ne s'appliquait en somme qu'à son goût du jardinage et de son fils.
Non, mais je crois qu'il y a, en dehors de cette tendresse, cette espèce de dureté que peuvent donner, disons, un monde, ou un univers, ou un destin, ou une vie, qui se passe sous un certain signe de pessimisme. Je ne crois pas que vous soyez un idéaliste souriant et que votre tendresse ne vous confère pas pour autant des espoirs euphoriques, des attendrissements faciles et des illusions confiantes.
Oui, je comprends.
Je tâtonne, mais je suis là beaucoup plus à la recherche d'un ton.
Je comprends beaucoup. Je comprends bien ce que dit Clavel et j'avoue que j'aurais une tendance, disons, à comprendre très bien ce que dit Clavel et peut-être à avoir une sorte de sympathie bien prétentieuse aussi de ce que vient de dire Clavel.
Oui, c'est-à-dire la tendresse, peut-être serait-ce la tendresse d'un homme né tendre, mais la seule tendresse qui soit compatible avec un monde d'airain constamment accepté, constamment vu tel quel, sans ornement idéaliste.
Voilà, oui, à peu près. Ce que dit Clavel colle parfaitement avec ce qu'il disait tout à l'heure concernant la question que vous m'avez posée, à savoir quel est pour vous le comble de la misère.
Eh bien, moi, j'avais dit que je pensais à une espèce de prééminence de la tendresse. Il faut même que je me défende un peu.
Mais personne ne vous attaque.
Parce que j'ai eu l'impression que M. Reggiani était essentiellement pris par la vie avec sa femme, avec son enfant, avec les gens qu'il aimait, et qu'en dehors de ça, ça lui était à peu près égal, parce qu'il nous a justement dit qu'il n'aimait pas les confidences, il nous a dit qu'il lisait fort peu, et j'ai pas eu l'impression d'une telle tension par rapport au monde extérieur. Et alors l'angoisse portait sur la menace susceptible de déranger la vie telle qu'il se la fait. Je trouvais que c'était un père de famille.
Parce que je suis un père de famille, et je suis peut-être davantage porté sur la misère tout court depuis que j'ai une femme et un enfant, parce que j'apprécie précisément la femme et l'enfant. Et que je sais que les autres n'ont pas tous la manière de les apprécier comme moi.
Et en dehors d'une fermeté née d'un monde d'airain, comme disait Clavel, je voudrais vous demander, d'un point de vue plus personnel, si vous craignez d'être dupe, et s'il vous est arrivé quelquefois d'avoir été dupe et d'avoir été victime de l'esprit de confiance et de dévouement que vous avez.
ça, je ne crains pas une seconde à ce sujet, au sujet, il s'agit bien toujours du même sujet, je ne crains pas
une seconde. Le sujet de la générosité, du dévouement.
D'être dupe, non, non, pas une seconde. Pourquoi? On n'est pas dupe dans ces choses-là.
Vous n'avez jamais eu d'illusion meurtrie?
Non, non.
Aucune. Sur le simple plan individuel, d'ailleurs.
Aucune à ce sujet, je ne crois pas, du moins.
Et pourtant, lorsqu'on vous a parlé des personnages imaginaires que vous préfériez, vous avez parlé des redresseurs de tort en riant un peu.
Comme... Oui, à cause du mot redresseur de tort.
Bon. Non, mais vous.
Seulement à cause du mot, simplement à cause du mot, mais.
Vous ne pensiez pas à Don Quichotte, par exemple.
Je ne pensais pas du tout à Don Quichotte, je pensais à quel est pour vous le comte de la misère.
Et d'où vient. Alors, dernière question qui rejoint un peu celle d'Aubert. Vous dites ne pas avoir le goût du risque. Mais on peut peut-être préciser et nuancer la question pour obtenir une réponse plus nuancée.
Naturellement.
Le risque, à savoir, avez-vous horreur du risque pour le risque, ce qu'on appelle le goût du danger pour le danger, ou bien alors on peut par ailleurs aimer et pouvoir se lancer dans une entreprise malgré les risques qu'elle comporte, ou on peut être détourné de cette entreprise et complètement par les risques qu'elle comporte. Alors je voulais avoir une réponse un peu plus nuancée. Ce qui est quand même curieux, n'est-ce pas, c'est que, comme le disait Manuel Bert, et tout le monde le connaît, Reggiani a une physique de conquistador.
Non, à vrai dire, je ne peux pas répondre. J'ai répondu, non, je n'ai pas le goût du risque. Peut-être aurais-je le goût du risque, je n'en sais rien, mais j'ai l'impression de ne pas avoir eu l'occasion ou de ne pas être simplement, disons, assez fort à tout point de vue pour pouvoir répondre, oui, j'ai le goût du risque.
Jean-Pierre Morfait parlait d'illusions meurtries. Je dois dire que je ne vois pas Reggiani avec des illusions meurtries. Cela me semble un peu élégant et désuet. Pour Reggiani, qui me semble terriblement enfant du siècle. Voilà pourquoi, si je propose un mot, ce serait plutôt celui de jeunesse battue. Je ne dis pas jeunesse battue comme enfance battue, mais peut-être les illusions meurtries furent celles, je ne sais pas, de son père et de son grand-père. Et je crois qu'il appartient plutôt à cette génération de celle qui est née précisément dans ce monde, dans un monde tellement dur que les coups vous meurtrissent, certes, mais sans même entamer des illusions qui auraient eu le temps de se former. Alors de là vient précisément cette certaine réserve, cette certaine fermeté et cette dureté qui ne doit pas être prise ici exactement comme le contraire de la tendresse. Et qui fait qu'on peut se demander si un jour on aura assez d'audace, assez de goût du risque pour essayer de se lancer dans quelques grandes choses, et parce qu'on en aura peut-être été découragé sans même y avoir été encouragé, parce qu'on n'aura pas eu le temps d'y être encouragé. Voilà ce que les conjectures que je me permets de faire très vaguement à votre sujet.
Il est évident qu'il est difficile de demander à un homme ou enfin un être d'avoir un désintéressement absolu pour tout ce qui se passe dans le monde actuellement, cet être a eu une vie physique, matérielle.
Difficile.
Non, pas difficile, non, pas, absolument pas difficile, mais simplement normale. Oui.
Non, mais quand Reggiani dit qu'il n'a pas le goût du risque, il se méprend peut-être sur le sens du mot risque, parce que la carrière même qu'il a entreprise comporte des risques de métier. Enfin, il s'est lancé dans le théâtre, qui est une grande aventure, donc on ne peut pas dire, il ne peut pas dire qu'il n'ait pas le goût du risque.
Oui, bien sûr, mais au fond, peut-être me suis-je lancé dans la carrière de comédien. Peut-être... Je ne me souviens pas avoir dit ou avoir pensé « Mon Dieu, allons-y, c'est risqué, mais ça ne fait rien. »
Alors comment est-ce que ça est venu?
Par hasard. Et seulement par hasard.
Qu'est-ce que vous vouliez donc faire?
Je n'en savais rien, justement. Alors, ne sachant pas quoi faire, j'ai commencé à faire une figuration à gauche et à droite. Et
à quel âge?
17 ans. Et peu à peu, j'ai commencé à aimer ce métier que j'ai fait.
Et avant 17 Finalement. Ans, vous ne vous étiez jamais senti attiré vers quoi que ce soit? Il n'y avait rien qui vous tentait?
Pas spécialement.
Qu'est-ce que vous faisiez?
C'était des extrêmement dramatique. C'était extrêmement dramatique. Non, des études, oui, j'étais à l'école, mais enfin, sans faire des études, j'étais à l'école,
vous dites
l'école communale.
Vous dites que c'était extrêmement dramatique.
Oui, dans ce sens que je ne savais vraiment pas quoi faire. Enfin.
Oui, donc vous souffriez de ne pas savoir quoi faire.
Bien sûr.
Vous n'hésitiez pas entre plusieurs choses.
Absolument pas, malheureusement. Et le hasard a fait que je suis entré dans ce métier, que j'ai, par la suite, appris à aimer.
Et pas tout de suite.
Si, disons tout de suite. Enfin, non pas dès la première figuration que j'ai faite au cinéma, mais peu à peu. Enfin,
et vous en aviez envisagé d'autres? D'autres métiers?
Je n'en avais pas envisagé d'autres, non.
Mais ce genre d'hésitation ou de manque de désir, cela se passe sur d'autres plans quelquefois que sur le plan métier. Est-ce qu'il vous est arrivé d'être incertain de votre avenir, incertain de ce que vous désiriez?
Incertain de mon avenir?
Incertain de ce que vous désiriez, plus exactement.
Non.
C'est-à-dire à cette époque de l'adolescence dont vous avez parlé, à 17 ans, vous n'aviez d'incertitude que sur la carrière que vous deviez entreprendre.
Mais j'avais toutes les incertitudes, je n'avais absolument aucune certitude, je n'avais rien, strictement rien. J'avais 17 ans.
Mais je dois dire,
c'est l'âge où l'on a des certitudes.
Je dois dire que si je devine bien, le mot de métier ou de carrière ne devait guère avoir de prestige sur vous. Car je crois que vous auriez parfaitement supporté de ne rien faire si cela eût été possible. Ou est-ce que pour vous, le métier, le travail avait un certain prestige?
Oh oui, sûrement.
Et maintenant, que diriez-vous de l'oisiveté? La trouveriez-vous inutile, intolérable, condamnable, ou l'accepteriez-vous fort bien?
Personnellement, pour moi-même, je la trouverais insupportable parce que je suis trop habitué à travailler. Et je ne l'imagine pas sur les autres.
Je crois qu'il n'y a pas. Et pourtant, vous n'idéalisez pas le travail.
Non.
Il n'y a pas de vocation de redresseur de tort oisif.
Mais non.
Mais imaginaire.
Mais imaginaire, oui.
De toute façon, le caractère de Serge Reggiani ressort assez de tout ce qu'il nous a dit, et nous voyons quel homme il est. Père de famille, malgré sa jeunesse, aimant son chien et sa maison, sentiments extrêmement bourgeois malgré son aspect physique et ses yeux ardents. En somme, on constate un grand contraste entre l'impression qu'il donne quand on le voit et celle que l'on tire de ce qu'il dit. Il y a comme une prudence et un repliement sur soi-même que masque une allure impétueuse. Je crois en vérité que les deux personnages existent en lui. Pour les mieux connaître et savoir comment ils s'entendent, il faudrait savoir d'où ils viennent. Le fait que pour Reggiani le comble de la misère soit un sentiment d'impuissance peut nous faire penser qu'au fond de lui restent des traces d'un tel sentiment et qu'il l'a éprouvé dans son enfance, d'où ce repliement qui n'exclut pas le désir de s'en sortir. Le hasard a fait de Reggiani un comédien, hasard heureux s'il en est, car son métier devient le miraculeux exercice lui permettant d'accepter l'existence réelle qu'il désire tant. Il a trouvé le double débouché de son double personnage. S'il n'était que le petit bricoleur vivant dans son jardin tel qu'il s'est présenté d'abord, il y aurait sans doute un jour l'explosion qu'on pressent dans son regard. Mais il a trouvé sa soupape de sûreté, la comédie, ce grand recours.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 29 juin 1950.